Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute!
Quels sont ceux et celles qui vivent sur la rive sud ici? Ah, peuple béni de l'Éternel. Quels sont ceux qui vivent sur la rive nord de Québec? Un jour, vous comprendrez. Tous les gens sur la rive sud, normalement, connaissent ce qu'on appelle l'Aquarena. À Charny, c'est un complexe aquatique qui est très apprécié par les gens de la rive sud, parce qu'on peut aller se baigner des grandes piscines, et c'est vraiment fait pour la communauté de la Rive-Sud. Bientôt, on va avoir un deuxième complexe aquatique à Saint-Nicolas, qui va être prêt normalement en 2019, qui va arriver, et ça va être encore plus majestueux, plus glorieux. Ça va être sur la route des Rivières, pour ceux qui connaissent la Saint-Nicolas, tout près du Mustang. C'est quasiment à côté de l'Envol, en fait, à droite de l'école secondaire L'Envol. Et il va y avoir un complexe aquatique, un centre communautaire, ça va être une super place, qui va être prête en 2019. Pourquoi je parle de centre de complexe aquatique ce matin? C'est que j'aimerais vous amener dans un complexe aquatique du 1er siècle. J'aimerais vous amener ce matin à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda était reconnue comme étant un endroit où il y avait de l'eau vive. C'était une piscine avec de l'eau vive qui venait à cet endroit-là. Il y avait 5 portiques. C'était un endroit qui était rempli de malades. Les malades allaient se coucher ou restaient couchés sous les portiques à l'ombre. Et il y avait la piscine qui était là. Et j'aimerais vraiment vous amener au complexe aquatique de Jérusalem, le complexe qu'on appelait Bethesda, qui veut dire en français la maison de la grâce, la maison de la miséricorde. Donc, tournez avec moi, pour ceux qui ont leur Bible ou leurs appareils mobiles, dans Jean 5, verset 1. Jean, chapitre 5, verset 1. Pour ceux qui ont des appareils mobiles, c'est un bon moment pour mettre vos appareils mobiles en mode vibration, s'il vous plaît, en mode silencieux, afin qu'on n'ait pas de distraction pendant le message. Donc, Jean, chapitre 5, verset 1 à 21. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc, toute l'action qu'on va lire ensemble se passe à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, la maison de la grâce, et qui a 5 portiques. D'ailleurs, on a retrouvé les vestiges de cet endroit-là et c'est exactement ce qui est décrit ici, c'est exactement ça. C'est juste à côté du temple, l'ancien temple à Jérusalem, tout près de la porte des brebis. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dites avec moi 38 ans. 38 années. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » OK, on va mettre juste le tableau. Jésus arrive à Jérusalem et il s'en va à Bethesda, qui est un endroit où il y a une piscine et il y a 5 portiques, il y a des malades partout. Et Jésus fait son entrée là et il voit un homme qui est là et se dit qu'il savait que cet homme-là était à cet endroit-là depuis longtemps, qu'il était malade depuis longtemps. Et il va vers lui et il lui dit, « Veux-tu être guéri? » Quels sont ceux et celles qui trouvent que c'est une question un petit peu particulière à poser à un malade? En fait, ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de faire un appel, d'appeler sa volonté, de faire appel à sa volonté. Au lieu de parler de la pluie et du beau temps, il lui demande, il amène l'attention directement sur la question de la guérison. « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Oh, oh! Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri et qui avait son petit matelas sous le bras, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit. Donc, Jésus le rencontre, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Il explique tout pourquoi il n'est pas guéri. Finalement, il dit, « prends ton lit, lève-toi, sois guéri. » Il se lève, il prend son lit. Après 38 années de paralysie, il se lève. Il met son petit matelas roulé en dessous de son bras, puis commence à marcher, puis il se fait reprendre. Par les Juifs, « Hey, on est le sabbat. Tu n'as pas le droit de transporter du stock. »« Ouais, mais c'est lui qui me dit qu'il fait 38 ans. Ouais. » Non, tu n'as pas le droit. C'est qui, au juste, qui te dit ça? Je ne sais pas. Et finalement, il se ramasse dans le temple. Et on sait que les gens qui étaient malades, le temple, il n'y avait pas nécessairement accès tout le temps au temple. Là, il se ramasse au temple. Et ça dit que Jésus l'a retrouvé dans le temple. Il est allé le voir. Et ça dit, car Jésus avait disparu de la foule, « Donc voici, tu as été guéri, dit Jésus à l'homme dans le temple. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il y a des gens ici qui font un genre d'équation en disant « Ah, c'est parce qu'il avait péché qu'il était malade et paralytique. » Non, Jésus est en train de dire ici, il est en train de faire référence par rapport à la vie éternelle, de ne plus pécher afin qu'il n'arrive pas quelque chose, finalement, qu'il soit séparé de Dieu pendant l'éternité. Donc, Jésus avait averti ici de l'homme de vivre dans la pureté, dans la sainteté. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Oh, oh! C'était pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus n'avait pas de problème d'identité. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Quel texte! Donc Jésus vient guérir un homme, soit dit en passant, aucune mention qu'il y a eu une quelconque démonstration de foi pour sa guérison, cet homme-là. En fait, même, on ne voit pas vraiment de reconnaissance pour ceux qui étaient au message de pasteur Michel. On ne voit aucune forme de reconnaissance non plus dans le texte de la part de cet homme-là. Il n'y a tellement pas de reconnaissance que finalement, quand il sait c'est qui l'a guéri, qu'il rencontre dans le temple, il va aller dire aux autorités qu'il l'a guéri pour mettre Jésus dans le trouble. Il savait très bien qu'en disant ça aux autorités que Jésus était dans le trouble. C'est quand même particulier que Jésus ait pris la peine de guérir cet homme-là. Et si vous êtes comme moi, et que ça fait longtemps que vous lisez les Écritures, et que vous avez réfléchi à ce texte-là, ça fait quand même réfléchir l'idée que Jésus rentre dans un portique plein de malades. 5 portiques remplis de malades. Il rentre à cet endroit-là, il va vers un homme, il le guérit, et il sort du portique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réalisé ça et que ça les a déjà fatigués? Il y en a d'autres, vous n'avez jamais vu ça. OK? Jésus rentre à un endroit, mettons ça à la sauce contemporaine. Jésus rentre au CHUL. Il rentre dans une chambre. Il guérit la personne qui est malade depuis 38 ans au CHUL et il sort de l'hôpital. Quels sont ceux maintenant qui trouvent ça un petit peu plus troublant? Moi, je me suis posé des questions, ça fait des années que je me pose des questions sur ce texte-là. Seigneur, comment ça que tu as guéri juste cet homme-là? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'expression « un éléphant dans la pièce »? Je sais pas si c'est international ou si c'est juste nord-américain. Donc, quels sont ceux qui connaissent l'expression « un éléphant dans la pièce »? Levez la main, même aussi les Africains. Là. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire « un éléphant dans la pièce ». C'est une expression, je pense que ça vient de l'Angleterre, qui a été écrit dans un ouvrage qui est devenu un petit peu quelque chose qui a circulé dans différentes sociétés. Quand on parle de l'expression d'avoir un éléphant dans la pièce, c'est l'idée qu'il y a un éléphant dans un salon, à titre d'exemple, puis tout le monde parle ensemble comme s'il n'y avait pas d'éléphant dans le salon. Puis Tout le monde, c'est évident, tout le monde sait que l'éléphant est là, mais personne n'en parle. On vit comme si l'éléphant n'était pas là. Donc, c'est ça quand on parle d'avoir un éléphant dans la pièce ou dans le salon. Et parfois, dans nos églises, il peut y avoir un éléphant dans la pièce. Il est là, l'éléphant, mais on n'en parle pas trop. Et ce matin, j'aimerais parler d'un de ces éléphants-là. Est-ce que ça vous va? Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas tous guéris? Il y a des gens qui viennent de mettre la main sur une partie de l'éléphant. Oh! C'est gros. C'est dur. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne question? Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas tous guéris? Est-ce que la question est bonne en passant? La question n'est pas bonne, quant à moi. Ce n'est pas la bonne question à poser. On va y arriver à la bonne question, mais est-ce que, pour moi, ce n'est pas la bonne question, car tous les chrétiens sont guéris. Le taux de guérison est de 100%. En tant que disciples de Jésus, on a tous cette profonde conviction que dès qu'un enfant de Dieu malade rend son dernier souffle, par le fait même, il est complètement guéri, et pendant l'éternité, il est guéri. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est notre espérance. Quand on voit nos proches arriver vers leur fin, les gens qu'on aime, quand j'ai accompagné mon frère Claude Dubé jusqu'à son dernier souffle, et de le voir partir, une partie de moi était déchirée de voir mon frère partir, puis une autre partie de moi, c'était comme « Merci Seigneur pour la nouvelle alliance. Merci Seigneur du fait que maintenant Claude te voit face à face et qu'il est complètement restauré. » Donc, en tant que chrétien, nous avons cette conviction qu'on soit charismatique, non charismatique, qu'on soit cessationniste ou non, on croit tous dans le fait que lorsqu'on bascule dans l'éternité, la guérison est complète et entière. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici qu'on peut être malade dans l'éternité? J'espère que non. Donc, ce n'est pas nécessairement la bonne question. Est-ce qu'on est tous guéris à un moment donné ou à un autre? Donc, la bonne question, ce n'est pas tant pourquoi je ne suis pas guéri, mais plutôt quand serai-je guéri? Dans cette vie ou dans l'autre? Que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, la guérison est nôtre. C'est important de ne jamais perdre de vue notre éternité, notre espérance, et la souveraineté de Dieu. Et pour moi, en tant que pasteur, alors que je suis souvent confronté à de nombreuses injustices, des gens qui vivent des injustices incroyables, pour moi, la maladie est une forme d'injustice, mais il y a de tellement différentes forme d'injustice dans ce monde que je me dis, wow, merci Seigneur du fait que lorsque nous traversons cette porte et qu'on passe de cette vie à la prochaine vie, que les injustices sont terminées et que l'on rentre dans la vie et qu'il n'y aura plus d'injustice. Ça, pour moi, c'est ce qui me réjouit. C'est ce qui me permet de continuer en tant que pasteur parce que la souffrance et l'injustice et les souffrances qui découlent des injustices sont tellement grandes sur cette terre. Et c'est comme si je vois dans mon esprit, pratiquement tous les jours de ma vie, je vois comme un filet sous mes pas. Pas un filet dans le sens négatif, mais un filet de bonté et de la miséricorde de Dieu qui est là. Que peu importe ce qui va arriver dans ma vie sur cette terre, peu importe ce qui va m'arriver dans l'autre vie, ce filet va toujours être là. Je vais toujours être rattrapé. Je ne peux jamais tomber dans le vide. Le Seigneur va toujours être là. Que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport à mes difficultés, que ce soit par rapport aux circonstances justement qui m'échappent complètement, j'ai toujours ce filet-là et le Seigneur est vraiment là. Jamais je vais tomber. Jamais il va me laisser tomber. Il va toujours me rattraper. Que ce soit dans cette vie ou que ce soit quand je traverse vers l'autre vie, son filet va être encore là sous mes pas et il va m'attendre de l'autre côté. Ça, pour moi, ça me rassure. Et je me dis, Seigneur, merci du fait que tu es avec nous tous les jours. Comme disait l'apôtre Paul aux Romains, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie. Donc, au lieu de poser la question, pourquoi je ne suis pas guéri? On peut se poser la question, Seigneur, c'est quand je vais être guéri? C'est quand, Seigneur? Une autre question qui pourrait peut-être être encore plus intéressante, c'est où est le problème lorsque les gens pour qui nous prions ne sont pas guéris? Certains chrétiens soutiennent que la guérison n'est plus pour nous aujourd'hui. Si seulement c'était si simple, si seulement c'était si facile, juste d'exclure la guérison physique, de dire que la guérison n'est plus pour aujourd'hui, si c'était si simple. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Bien que je respecte la conviction de mes frères et mes sœurs, je dois dire que je suis complètement opposé à leur point de vue, pour plusieurs raisons. De toute évidence, dans la Bible confirme que la guérison est encore pour nous aujourd'hui. L'histoire de l'Église regorge de témoignages de guérison à travers les siècles depuis 2000 ans. Notre histoire en tant que pentecôtistes depuis 100 ans nous révèle que Dieu, partout à travers le globe, guérit les corps, les corps qui sont malades. Ma propre expérience me confirme que la guérison est encore pour nous aujourd'hui. J'entends parler de toutes sortes de guérisons et de miracles que Dieu fait à travers le monde. Mes collègues qui m'en parlent et ce que je lis parfois de mes collègues qui sont à l'international. Dans mon esprit, il n'y a même pas de doute, la guérison fait partie de notre héritage spirituel en Jésus dans la nouvelle alliance qu'on a célébrée ce matin. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ceci étant dit, je ne crois pas qu'on ait complètement cerné ce domaine-là de la nouvelle alliance. Donc, si la guérison fait partie de notre héritage spirituel, quel est le problème lorsque les gens pour qui on prie ne sont pas guéris? Pour être honnête, frères et sœurs, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas mal lu aussi sur la question et j'en suis arrivé à des conclusions. J'ai abouti à certaines conclusions concernant la guérison que j'aimerais vous partager ce matin. Et à la fin de mon message, je vais vous inviter à prendre position, à savoir où vous vous situez, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Voici les convictions auxquelles j'ai abouti dans mes nombreuses réflexions par rapport à la guérison. La foi par rapport à la guérison est un élément important dans la guérison, mais ce n'est pas un élément obligatoire pour être guéri. À plusieurs endroits dans les Écritures, on voit que des gens n'avaient pas du tout de foi et ils ont été guéris de leur mal. Ils n'avaient pas de foi. L'homme qu'on a lu tantôt n'a démontré aucune forme de foi. Il a juste posé la question « Veux-tu être guéri? » Il lui a répondu « J'arrive jamais à me rendre là-bas. » Puis Jésus dit « Lève-toi. » OK. Lazare n'avait pas eu beaucoup de foi lorsqu'il est sorti de son tombeau. Il était mort. Le gars, il n'était pas en mesure d'en avoir. Mais je me suis posé la question, alors que la foi est un élément quand même qui fait partie de la dynamique de la guérison physique, je me suis dit, Seigneur, il est où le problème? Puis pendant des années, je faisais comme une genre d'équation. Je prie pour quelqu'un, je sais que la guérison est pour aujourd'hui, je sais que Dieu peut guérir. Et là, je me dis, OK, je prie pour le malade, et j'ai vu en passant là, des gens être guéris alors que je priais pour eux. Puis d'autres fois, je prie, puis ça ne prend pas place. Puis là, je me disais, OK, il est où le problème? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez de foi? Est-ce que c'est la personne malade qui n'a pas assez de foi? Et entre vous et moi, pour moi, ça c'est clair, la personne qui est devant moi, là, jamais, 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 je vais mettre le fardeau sur cette personne-là. Et si vous voulez me voir fâché, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Là. Mais en tant que pasteur, s'il y a une chose qui vient me chercher, là, c'est que quand déjà quelqu'un est malade, puis qu'on prie pour lui, puis qu'il n'est pas guéri, puis qu'on arrive avec un argument en disant « mais c'est à cause que tu n'as pas assez de foi », là, je peux devenir un peu malin. Fait que si jamais vous dites ça, assurez-vous que je ne suis pas dans les alentours. Okay? Moi, j'aimerais vous dire ceci. Si vous croyez dans votre cœur que le Seigneur peut vous guérir, c'est suffisant pour être guéri. J'aimerais vous dire que si vous priez pour les malades, déjà le fait de prier pour les malades, c'est suffisant pour voir des malades guéris. Mais là, moi, j'étais dans la voiture, souvent en train de conduire, puis là, je me disais, Seigneur, il est où le problème? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez de foi? Est-ce que c'est la personne qui n'a pas assez de foi? Puis là, c'était comme, j'aime pas ça. Puis là, finalement, j'étais pris dans un genre de cul-de-sac, dans une voie sans issue. Jusqu'au temps où, à un moment donné, j'ai commencé à écouter des gens qui vivent la guérison davantage que moi, et qui commençaient à dire ça, qu'il y avait des moments d'échec, des moments de réussite. Puis là, ils disaient que ce qu'ils avaient constaté, c'est que la foi, oui, est un élément important, mais que des fois, les gens n'ont même pas de foi. Et les gens sont complètement pris par surprise. Et les gens sont guéris, alors qu'il n'y a même pas de foi. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Puis les gens passaient à un endroit, puis ils étaient guéris à l'extérieur d'un bâtiment, puis ils ne savaient même pas ce qui se passait dans le bâtiment. Exemple. Puis ils réalisaient ceci, ils disaient ceci, et ça m'a ouvert à une nouvelle dimension. C'est j'y arrive dans quelques instants. Combien de fois on a besoin, combien de foi, F-O-I, on a besoin pour être guéri? Si tu crois que Jésus peut te guérir, c'est suffisant. Je le redis, c'est suffisant. La foi n'est pas quelque chose de magique ni une disposition intérieure particulièrement difficile à adopter. Ça, pour moi, j'ai erré dans ce domaine-là pendant des années. La foi, c'est comme, OK, je vais croire. Je vais croire. Je vais croire. Je vais croire. Seigneur, je le crois. Là, tu te positionnes intérieurement. Okay, j'essaie de trouver la façon, puis là, que Dieu, là, que ça va venir, ça va. Il faut que je m'enligne, tu sais. Non, je crois que Dieu est bon. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu veut guérir. Mais il y a des choses qui m'échappent. Comme je l'ai dit, dans les Écritures, Jésus a guéri des gens qui avaient plein de foi. Il y a des gens qui avaient une foi normale. Il y avait des gens qui avaient peu de foi. Il y avait des gens qui avaient aucune foi. Et Jésus a guéri. Pour ceux et celles qui prient pour les malades, j'aimerais vous encourager aussi ce matin. Ce n'est pas facile de prier pour les malades et d'être confronté échec par-dessus échec par-dessus échec. Ce n'est pas facile pour la personne qui est malade non plus d'avoir la prière à plusieurs reprises et de voir toujours sa condition être inchangée. Un autre élément que j'ai appris dans mes réflexions sur la guérison, j'ai appris à m'en remettre au caractère et aux motivations de mon Seigneur. C'est-à-dire que j'ai choisi de croire qu'il est toujours bon. Que la guérison prenne place ou non dans le corps de la personne avec qui je suis en train de prier, je fais confiance à son caractère, à son timing, à sa souveraineté. Il y a eu des années, pendant des années, je priais pour les malades, et quand ils n'étaient pas guéris, je vivais une... comment je pourrais décrire ça? C'était pas facile, disons ça comme ça. C'est pas facile. On aimerait tellement parfois voir des gens qui sont dans la souffrance, les voir vraiment être complètement libérés, alors que tu en as vu d'autres être libérés de leur mal. C'est pas facile. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Un choix vraiment d'y réfléchir, de dire, Seigneur, est-ce que je vais être offensé? Est-ce que je vais toujours me planter dans le découragement à chaque fois que je prie pour un malade qui n'est pas guéri? Puis je décide, non, je m'en remets à ton caractère. Je sais que tu prends soin des gens et que tu aimes les gens. La guérison dans le royaume a plusieurs dimensions, soit dit en passant. C'est pas juste le corps. Mais il y a l'âme, il y a l'esprit. Et ça, on en voit très régulièrement les gens qui sont vraiment guéris dans leur âme, dans leur esprit. Mais évidemment, le corps, pour nous, est important aussi. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance, soit dit en passant. Ça, c'est une autre conviction à laquelle je suis arrivé. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. À quoi bon être guéri dans son corps si on ne naît pas nouveau, on ne découvre pas la grâce du Seigneur Jésus et que finalement, on est séparé de Dieu pendant l'éternité? Pasteur Michel racontait il y a quelques semaines dans son message qu'il a prié pour un patient qui était, le corps médical ne savait plus quoi faire pour lui. Il s'est présenté dans le bureau de Pasteur Michel et Michel a dit, écoute, je ne peux rien faire pour toi, mais je suis croyant, je peux prier pour toi. Il a prié pour lui et tous ses marqueurs sanguins sont devenus complètement normaux. Mais l'homme, après ça, a dit, je ne suis pas capable de me tourner vers le Seigneur. Je ne suis pas capable de croire. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Une autre chose que j'ai appris avec par rapport à la... En pratiquant le ministère de la guérison, c'est d'embrasser le mystère et refuser d'embrasser l'offense. Une vie sans mystère n'existe pas. Une vie chrétienne sans mystère n'existe pas. Il va toujours avoir un peu de mystère. On ne sentira jamais le tout à part lorsqu'on va traverser de l'autre côté. Une autre chose que j'ai appris et que j'ai dû accepter, c'est de dire qu'est-ce qui est le standard dans ma vie? Est-ce que c'est ce livre qui est mon standard ou est-ce que c'est ce que les gens dans l'Église peuvent dire? Est-ce que c'est mon expérience qui est mon standard? Et ça, ça devient dangereux lorsqu'on commence à déterminer que notre expérience est notre standard. Ça devient vraiment dangereux. Si je dis, OK, je prie pour les malades ne sont pas guéris. Donc, ma théologie, c'est que les malades ne sont pas... La guérison, je prie pour aujourd'hui. Si on applique la même logique, je souffre de dépression depuis des années. Et on a prié pour moi pour que je sois libéré de ma dépression. Je n'ai pas été guéri. Donc, la dépression fait partie des choses que je dois accepter dans ma vie. Et là, je pourrais faire une liste interminable. De toujours prendre notre expérience ou nos échecs et dire que je vais descendre ma théologie à ce niveau-là. C'est plus confortable. On se sent un peu plus à l'aise. Mais en même temps, on diminue les Écritures au niveau de notre expérience. Si on abdique devant la maladie et qu'on cesse de prier pour les malades, alors on laisse aller du même coup une partie importante de notre héritage spirituel. C'est un terrain très glissant. Je vous encourage, frères et sœurs, à étudier la parole au niveau de la guérison, de lire des livres et des témoignages sur la guérison. C'est le fun avec Internet. Allez voir sur Internet, vous allez voir, entre autres, il y a un des témoignages que j'ai vu sur YouTube qui m'a beaucoup marqué, de Bethel, une femme qui avait la maladie du Guillain-Barré, et puis qui racontait qu'elle était complètement dysfonctionnelle, puis elle disait au Seigneur le matin même, après un certain temps, complètement, vraiment dysfonctionnelle dans sa vie, elle avait une petite fille et tout ça. Elle raconte qu'elle est allée en chaise roulante avec son mari dans un café, juste une date ensemble, une sortie ensemble. Et lorsqu'elle est arrivée là, à un moment donné, il y a une jeune femme qui est venue la voir en disant, écoutez, je m'excuse, dans le café, là, c'est comme si on était au Starbucks, puis une jeune fille qui arrive qui dit, excusez, je suis en train d'apprendre à entendre la voix de Dieu, puis... je sens que je dois prier pour vous par rapport à votre maladie. Fait qu'est-ce que je peux prier pour vous? Elle a dit oui, tout à fait. C'était une chrétienne, celle qui était malade. Puis l'autre commence à prier pour elle, tout simplement, il ne se passe rien. Et finalement, la femme, en fait, non, c'est pas vrai, quand elle a prié pour elle, il y a une de ses jambes qui s'est mise à shaker, à trembler. Et puis dans le restaurant, par la suite, elle est sortie du restaurant avec son mari, ils se sont assis dans la voiture, et là, à ce moment-là, ses deux jambes ont commencé à trembler dans la voiture. Puis finalement, elle a eu l'idée de sortir de sa voiture. Elle n'était plus capable de marcher, là. Et elle est sortie de la voiture, ses jambes étaient parfaitement normales. non seulement elle est parfaitement normale, puis dans la vidéo, à un moment donné, on la voit, son mari est en train de filmer, sa femme est partie à courir dans le stationnement. Elle est partie à courir, puis elle revenait, puis, tu sais, genre de fille hystérique, là, qui arrive, puis là, elle arrive à la voiture, puis là, la caméra tombe sur les jeans du gars qui était en voiture, tout ça, puis là, la femme explique, quand la caméra tombe, c'est mon mari qui se met à pleurer, puis à pleurer, parce que sa femme vient d'être guérie. Celle qui était complètement, qui a perdu tous ses moyens. Puis là, finalement, quelques instants plus tard, revient à la maison et la mère rentre, complètement guérie. Sa petite fille la voit, prend sa petite fille, complètement restaurée, peut courir avec sa fille maintenant. C'est un exemple parmi des milliers. La guérison est encore pour aujourd'hui. Je me suis toujours dit, j'accepterai jamais l'inacceptable, je tolérerai jamais l'intolérable. Le royaume de Dieu n'est pas qu'un message, c'est une démonstration. L'apôtre Paul va dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, quel est le problème lorsque les gens pour qui nous prions ne sont pas guéris? J'ai dit tantôt que je faisais comme une équation, à un moment donné, je dis, c'est comme si j'étais pris dans un cul-de-sac, jusqu'à ce que j'entende un frère qui vit de la guérison beaucoup plus régulièrement que moi, me dit, c'est souvent un problème d'onction. Et là, ça m'a ouvert comme un nouveau segment, dit, ah, l'onction. OK, l'onction. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça, et j'encourage à prier par rapport à ça. On est une église qui croyons dans les dons spirituels. J'encourage à prier afin que l'onction puisse augmenter au milieu de nous. Que s'il y a des gens déjà que vous le faites, vous avez déjà prié, vous priez depuis des mois et des années peut-être sur ça, continuez à le faire. Mais pour ceux qui ne le font pas, et si on en fait tant que famille, on disait, Seigneur, ça, cet aspect-là de l'héritage spirituel, on le veut, on le désire. Que même si on a vécu des échecs, Seigneur, on continue malgré les échecs. On continue à aller de l'avant. Un frère, un pasteur français avec qui j'ai eu l'occasion que j'ai pu entendre, me racontait que suite à une conférence, il était retourné à son église. Il dit, dans les 6 mois qui ont suivi, alors que je suis retourné après cette conférence-là, je suis retourné à mon église, les 6 mois qui ont suivi, il n'y a aucune maladie qui a résisté dans nos réunions. Pendant 6 mois, tous les malades ont été guéris. Est-ce que les gens qui aimeraient ça voir ça, les voient? Est-ce qu'on peut juste se mettre d'accord sur le fait que on a le choix de rester dans l'offense, dans le découragement par rapport aux échecs. On peut écouter ceux et celles qui disent que ce n'est plus pour aujourd'hui. Ou on peut dire, Seigneur, on est une église, qu'on ne comprend peut-être pas tout, puis on est prêt à embrasser le mystère, mais on se tient devant toi en disant, nous croyons à ta parole. C'est notre standard. On continue à prier, à chercher, à jeûner, à nous attendre à toi pendant 6 mois. Et moi, je commence à prier. Je dis, Seigneur, je prie pour les dons des guérisons. L'apôtre Paul va dire qu'il y a plusieurs dons qui sont donnés au corps de Christ aux différents membres. Il y en a un, c'est la foi. Puis après ça, il va dire à un autre, le don des guérisons. Puis en fait, c'est les dons des guérisons. Prions pour que les dons des guérisons puissent émerger au milieu de nous. Prions que, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, les enseignants, ensuite, ceux et celles qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir. Seigneur, on les veut, ces dons-là. Et on veut que la journée qu'ils vont émerger au milieu de nous, que ce soit ici, que ce soit dans une autre église à Québec, que ces dons de guérison-là, vont émerger, on va les célébrer. On ne les jalousera pas, on ne sera pas rempli de jalousie, mais on va les célébrer. On va dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, peu importe d'où ça va venir, que ça vienne de moi ou que ça vienne de n'importe qui parmi nous, je m'engage, je vais célébrer et je vais vous encadrer pour que vous puissiez vraiment continuer à aller de l'avant. Comme on a déjà dit à l'Église Abondante, il y a une expression pour ceux et celles qui sont peut-être en visite ce matin, vous allez peut-être entendre à l'occasion nous entendre dire, on veut l'électricité. Et puis, ça fait référence à un rêve qu'une sœur avait eu, comme de quoi que notre Église était représentée par une maison, et on était encore à lampe à l'huile dans son rêve. Puis on était dans notre maison, puis il faisait noir, puis on avait des lampes à l'huile, et les pylônes électriques étaient juste à côté. Et le Seigneur nous avait dit à travers ce rêve-là que vraiment, l'électricité s'en vient. On est sur le point. Et quels sont ceux qui savent qu'il y a une différence entre quand tu as de l'électricité dans une maison ou quand tu es juste à lampe à l'huile? On a dit, c'est pour ça qu'on dit on veut l'électricité. Et c'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on a nos veillées de prière. On va avoir une veillée de prière, je pense, qui est vendredi prochain, le 7 ou dans 2 semaines, vendredi soir, de 10h30 jusqu'à 3h du matin. Vous pouvez venir à l'heure que vous voulez, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. Mais on se met devant le Seigneur. Pourquoi qu'on fait ces veillées de prière-là? Parce que nous croyons dans la dimension surnaturelle de Dieu et on veut se synchroniser avec le Seigneur et on veut voir sa gloire prendre place. Allez, va. C'est la raison pour laquelle on fait. La responsabilité du Seigneur, c'est de nous équiper, nous enseigner, augmenter l'onction sur nos vies, guérir au travers de nos vies. Notre responsabilité à nous, c'est de prier pour réclamer cette part de notre héritage-là, de prier pour les malades, d'aimer les gens et de continuer à croire. Continuer à croire. On veut continuer notre responsabilité, on veut continuer à croire. La foi, j'ai parlé dans mon dernier message de la foi, qu'une définition dans Wikipédia, c'est un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions d'autrui. Là, je n'ai perdu plusieurs. Hein? En d'autres mots, la foi et la confiance dans cette définition-là, c'est je prends un risque, je fais confiance à quelqu'un d'autre dans ses intentions et je décide de lui faire confiance. Et je sais que je me rends vulnérable en le faisant. C'est un petit peu ce à quoi je vous invite ce matin. De dire, Seigneur, je continue de faire confiance et je me rends vulnérable à la déception, aux échecs. Mais par rapport à la guérison, je m'attends à toi. Notre responsabilité, donc, je disais, de prier pour réclamer cette part de notre héritage, c'est de prier pour les malades, d'aimer les gens, de continuer de croire, de s'appuyer sur le caractère de Dieu, de refuser l'offense, de résister la tentation d'abaisser notre théologie au niveau de notre expérience, de ne pas nier la réalité, ça c'est notre responsabilité. On ne nie pas la réalité, on n'est pas de ceux qui, quand on est malade, on se dit qu'on n'est pas malade pour se faire croire qu'on n'est pas malade, pour espérer être guéri parce qu'on se dit qu'on n'est pas malade, puis vous comprenez un petit peu la dynamique? Non, on est une église où on ne nie pas la réalité de la maladie, on collabore avec le corps médical, mais on s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu à travers de ça, on s'attend à son intervention. En passant, soit dit en passant, on peut-tu se le dire quand même, on a un super système de santé au Québec. On a un super système de santé, il n'est pas parfait, hein? Mais on est béni au Québec. Pour ceux et celles qui n'en sont pas convaincus, voyagez un peu plus. Vous allez voir à quel point on est béni. Ah, peut-être que le temps d'attente est long, mais vous avez un médecin avec une formation extraordinaire qui prend soin de vous au bout de cette attente-là. Merci Seigneur. Peut-être que la structure n'est pas parfaite, mais merci Seigneur pour le fait qu'on a vraiment un bon système de santé. Puis il y a des gens qui se disent, il y a peut-être que je chante un petit peu de rogne à l'intérieur de vous. Je sais. Les élections s'en viennent, vous ferez ce que vous avez à faire. Hein? Je ne donne pas d'indication, là. J'ai juste... Prier. Il y a une attitude dans la culture québécoise qui fait qu'on se plaint constamment. Et je crois que cette attitude-là est en contradiction avec la culture du royaume de Dieu, qui nous encourage à être reconnaissants, à bénir nos autorités, à honorer, à respecter. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas quand il y a des choses qui ne marchent pas, mais l'attitude est très importante. Une autre chose que nous, on est appelé à faire, une de nos responsabilités, c'est de persévérer à se tenir aux côtés des malades au milieu de nous dans leur combat contre leur maladie, de les aimer, de les supporter, d'être avec eux. Et j'aimerais vous dire à tous mes frères et sœurs qui être malades présentement, on est avec vous. On est avec vous. À chaque étape, on prie pour vous et on vous aime. Et on est à vos côtés, on va être à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, mais on va être avec vous et on croit pour la guérison. Et on n'abaissera pas notre théologie au niveau de notre expérience, parce que par le fait même, si on faisait ça, c'est qu'on vous abandonnerait. On veut rester axé et vraiment fixé sur notre héritage spirituel. Et je suis en train, en disant ça, je suis en train de prendre position, c'est clair dans mon esprit. Il y a peut-être des gens ici, vous venez de d'autres églises, vous êtes en visite ce matin, et vous trouvez que ma position est particulière, c'est ma conviction, et je m'assume. Et la réalité, c'est que quand tu pries pour quelqu'un qui dit, à titre d'exemple, j'ai telle condition et s'il n'y a pas un changement dans ma vie, je dois passer par l'opération. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et que je prie pour la personne et elle revient me voir en disant, écoute, je suis retourné voir le spécialiste, il ne trouve plus rien. Je me dis, merci Seigneur. Et après ça, on ne peut pas me dire que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. Mais ce que je vois tout le temps des guérisons à chaque fois, si seulement, un jour quelqu'un m'a dit, parce qu'il ne croyait pas dans ma conviction, puis il me le reprochait. Il dit, va donc au CHUL, va donc guérir tous les malades. Il m'a envoyé ça comme ça, comme vraiment une provocation, tu sais. Puis dans mon cœur, la réponse a été, ah, si seulement ça peut arriver, c'est exactement ce à quoi j'aspire. Et ça me ramène à notre histoire du début. Jésus rentre dans un portique, dans 5 portiques, rempli de malades. Il rentre à cet endroit-là et il va voir un malade. Un homme paralysé depuis 38 ans. Il le guérit, il sort de là. Si vous êtes comme moi, vous avez des réactions vraiment négatives par rapport à ça. Quels sont ceux qui trouvent que ça ressemble à du favoritisme? Hein? On vient de mettre la main sur un autre éléphant, là. Ou le même éléphant, mais une autre partie. On a l'impression que c'est comme du favoritisme. Mais c'est clair dans les Écritures que Dieu ne fait pas de favoritisme. Cet homme-là a été guéri, les autres n'ont pas été guéris, mais ils n'ont pas été guéris à ce moment-là. La piscine de Bethesda était juste à côté du temple. Jésus est rentré là, il a guéri l'homme, il est sorti. Quelques mois plus tard, une nouvelle dynamique a pris place à Jérusalem. Suite à la mort sur la croix et la résurrection d'entre les morts, Jésus est parti rejoindre le Père au ciel et ça a dit qu'il a commencé à avoir une dynamique surnaturelle à travers les apôtres dans la ville de Jérusalem. Juste à côté du portique de la piscine de Bethesda, les portiques. Et voici ce qu'on peut lire dans le livre des Actes. Quelques mois plus tard, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. On apportait les malades dans les rues. Ils venaient d'où ces malades-là? On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et sur des couchettes afin que lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, passerait, son ombre au moins puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. La multitude, écoutez bien ça, là, c'est quelques mois plus tard, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Les gens qui étaient à la piscine de Bethesda, que Jésus n'a pas guéri à ce moment-là. Quelques mois plus tard, j'aime à imaginer que ces gens-là se sont transportés ou des gens de leur bien-aimé les ont transportés et les ont mis dans la rue. Ça dit même que les gens des villages autour de Jérusalem accouraient à Jérusalem avec leurs malades, avec les gens pris, avec des démons et tout ça, afin qu'ils soient délivrés. Et ça dit, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, le se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Tellement jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient toute l'attention du peuple. Et c'est d'un coup les apôtres. Tous étaient guéris. Les gens traînaient les lits, les mettaient sur les bords en espérant. J'espère que Pierre va passer par cette rue-là, juste par son homme, je vais être guéri. Ça, c'était la réalité quelques mois après la piscine de Bethesda. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que parfois, lorsqu'on reçoit la guérison, ou parfois quand on prie pour les gens, parfois les gens ne sont pas guéris sur le moment. Mais parfois, le Seigneur le sait. Jésus savait qu'en priant juste pour cet homme-là, que les autres auraient l'occasion de connaître la guérison quelques mois plus tard. Il le savait. Il savait ce qui s'en venait. Il savait c'était quoi la dynamique de la nouvelle alliance qui était pour prendre place. Et ces gens-là, assurément, moi, j'aime à imaginer, ils étaient juste à côté du temple de Salomon, à côté du portique de Salomon où se tenaient tous les chrétiens. Et ça nous dit qu'on les transportait, les malades, pour que Pierre et tous étaient guéris. Que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, si vous êtes malade, qu'on a déjà prié pour vous, j'aimerais vous dire que votre foi ne défaille point. Ayez confiance. Permettez-nous encore de prier pour vous. On va prier tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Jésus a prié à deux reprises pour un homme qui était aveugle. La première fois qu'il a prié pour lui, c'était comme des arbres qui disaient, je vois des hommes, et c'est comme des arbres et tout ça. Il dit, c'est beau. Jésus a reprié une deuxième fois. Ça peut arriver des fois qu'on prie plusieurs fois pour vous. Si Jésus a prié deux fois pour un aveugle, combien de fois qu'on peut prier avant que l'aveugle voie? Tant et aussi longtemps que vous acceptez, on va prier pour vous. Ce matin, en terminant mon message, je vous invite à deux choses. Deux choses. Premièrement, à un moment donné dans notre vie chrétienne, on doit planter un drapeau, ce que j'appellerais, là, de prendre position, de dire, voici ma position par rapport à la guérison. Je ne veux pas être au neutre par rapport à la guérison. Soit je suis pour, soit je suis contre. Mais je ne reste pas au neutre. Si je suis pour, c'est que je m'engage à prier pour la guérison, à prier pour les malades et à croire dans le Seigneur pour ça. C'est le temps de prendre position et de ne pas vous mettre dans une situation confortable de non-position. J'ai l'image de ce drapeau-là. Je vous donne un drapeau ce matin. Où le plantez-vous? Dans quel territoire? J'ai créé une ligne. Et je me mets du côté de ceux qui disent, qui se positionnent pour la guérison, même si on ne voit pas tout ce qu'on veut voir pour l'instant. Je me positionne du côté que la guérison est encore pour aujourd'hui et je vais y croire jusqu'à mon dernier souffle dans ma vie. Moi, je suis de ce côté-ci. De quel côté êtes-vous? Et pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans la maladie présentement, que depuis des années, vous pouvez vous identifier à cet homme qui était sous le portique de Salomon, qui était guéri, que vous avez besoin d'être délivré. J'aimerais vous dire, on va encore prier pour vous ce matin. On va prier pour vous dans les prochaines minutes. Et gardez votre cœur ouvert. Ne laissez pas l'offense venir vous voler. Il y a un chant, dans un vieux chant qu'on chantait au Québec au siècle dernier, de notre frère Luc Dumont. C'est un vieux chant très simple là, qui fait référence au fait que ni les soucis, ni les fardeaux de cette vie ne pourront vraiment venir m'affecter. Je vais garder ma foi dans le Rédempteur. Et il va faire référence à un texte de l'Ancien Testament où Job va dire « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette parole? Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui vient nous délivrer d'un mal ou de notre esclavage. Un jour, on raconte l'histoire d'une jeune femme esclave qui était sur le point de se faire vendre dans un marché d'esclaves. Alors que c'était son tour de se présenter sur la plateforme pour être vendu, un homme a très rapidement mis fin aux enchères en offrant une forte somme d'argent. La jeune femme esclave, ayant été ainsi achetée, fut amenée à son nouveau propriétaire. Alors qu'elle se retrouva devant le nouveau propriétaire pour la première fois, elle lui cracha au visage, croyant qu'elle était pour être victime de toutes sortes d'abus et de sévices de la part de son nouveau propriétaire. Bien qu'elle lui ait craché au visage, le nouveau propriétaire de la jeune femme resta calme, arbora un sourire, s'essuya le visage de son crachat et la libéra de ses liens et lui dit « C'est pour la liberté que je t'ai acquise. Tu es maintenant libre, je t'ai acheté pour te libérer. » Ça, ce que la femme venait de vivre là, à ce moment-là, c'était la rédemption, le concept de la rédemption. Donc, lorsque nous parlons d'un rédempteur qui est vivant, mon rédempteur est vivant, c'est celui qui me délivre et qui a acheté ce qui est nécessaire pour me délivrer. Et on le croit aussi pour la guérison.
Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva-quebec.com. N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.